Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec David Douillet, avec Simon Dutin, Marc Madiot, Fred Veil, je vous rappelle un rendez-vous dans moins d'une heure, hein, la finale du Grand Slam de Pékin. Donc c'est un grand chelem de ping, de tennis de table, avec pour la première fois un Français qui va essayer de s'imposer, c'est Félix Lebrun, double médaillé de bronze aux Jeux Olympiques, face au numéro 1 mondial chinois tout à l'heure. Donc à suivre sur RMC et sur également Twitch, sur le compte RMC Sport, pour avoir les images. Beaucoup de rendez-vous, on en a parlé tout à l'heure, il y a la Formule 1 également ce week-end, les championnats d'Europe. Je crois qu'on vous a donné envie de tout regarder, tout écouter sur RMC. Dans un instant, léger sur le buzzer. Tiens, un sujet générationnel. Les créateurs de contenu sont-ils de bons ambassadeurs du sport? Parce qu'il y a un autre événement, le GP Explorer, qui est une course de Formule 4 où s'affrontent des youtubeurs au Mans, qui va être diffusé sur le service public aujourd'hui. Alors vous entendez ça comme ça, vous dites, mais de quoi ils parlent? On va se poser la question, oui, s'ils sont de bons ambassadeurs du sport, ces garçons-là, qui arrivent à attirer des millions de spectateurs et des gros sponsors surtout. Certaines fédérations sont très contentes de les avoir avec eux. En fin d'émission, participez au GG du sport, au jeu. Remportez votre PC portable de la marque nantaise Altic. C'est une marque qui permet aux personnes non initiées à l'informatique d'y arriver avec des ordinateurs adaptés. Pour participer au jeu et remporter votre PC portable Altic, appelez le 3216 touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16, sport au 7-32-16. Mais tout de suite, les GG, vous nous ouvrez la porte du vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Les amis, ce qui a attiré notre attention cette semaine, c'est évidemment le PSG qui se déplace ce soir à Lille, 20h45 à vivre en direct sur RMC. Paris s'est imposé cette semaine à Barcelone avec 5 Titi, comme on les appelle, les jeunes du centre de formation dans le groupe, dont 3 étaient même titulaires. Il a fallu donc faire preuve de personnalité dans le 11 des champions d'Europe contre l'autre meilleure équipe d'Europe en fait, qui jouait chez elle. Et ils l'ont fait. Tiens, je voudrais qu'on écoute Luis Enrique parler justement de ces jeunes avec de la personnalité.
Il y a une connexion réelle et vraie. Quand tu es l'entraîneur de la première équipe, c'est facile. Tu as besoin de quelques joueurs et tu les prends. Ce qui est différent, je pense, en rapport à le passé, c'est le caractère des joueurs, de la jeune. Parce qu'ils sont très ouverts, ils sont très courageux. Quentin Gentou, il a fait le début à Barcelone, un match de Champions League, et j'étais plus nerveux que lui. Le plus important, c'est être content de voir tout le monde ensemble. Et je pense qu'on a montré ça, non seulement les derniers semaines, mais il y a très longtemps.
Les jeunes aujourd'hui sont très courageux et Luis Enrique était plus nerveux que les jeunes qu'il a lancés à Barcelone. Intéressant. Les GG, à travers vos expériences, comme ces Titi l'ont fait à Barcelone, je voudrais qu'on parle ensemble de ça. Comment on s'impose en fait quand on arrive chez les grands, comme on dit. Vous l'avez tous fait dans votre carrière. Fred Weiss, comment on s'impose chez les grands? Toi, t'as connu ça?
J'ai connu ça parce que je suis sorti de l'INSEP. Et je suis arrivé à Limoges. Limoges qui était une équipe depuis peu championne d'Europe de la grande compétition européenne bien avant Marseille.
C'était le PSG en foot actuellement.
Oui. Et c'est surtout la première équipe française à s'imposer sur une compétition européenne de cette envergure. Tu arrives dans l'équipe, il y a Richard Dacoury, Jim Bilba, Fred Forte, qui sont tous les trois évidemment des membres incontestables et incontestés de l'équipe de France.
Des monstres.
Yann Bonato et Hugo Grancet qui viennent en plus se rajouter à ça. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? T'as déjà ce syndrome de l'imposteur au départ, et tu sais pas comment trop t'adapter. Première passe que Richard Dacoury me fait, je me rappellerai toujours, je tremblais tellement que je la prends dans la tête. Donc, pour dire à quel point j'étais vraiment stressé. Et c'est là que je pense que l'adaptation se fait aussi grâce à l'intelligence des vieux et leur envie de transmission. Moi, j'ai eu Fred Forte qui me parlait beaucoup. Yann Bonato venait me chercher devant chez moi pour m'amener à l'entraînement. On parlait, il m'expliquait. Et ils m'ont expliqué quelque chose de très simple, en tous les cas pour le sport collectif, parce que le sport individuel, je connais un petit peu moins, évidemment. Mais pour le sport collectif, ils m'ont dit, fais des choses simples. Rassure ton entraîneur pour te faire jouer, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, défends bien, fais pas d'erreurs, et bats-toi sur tous les ballons. Et avec ça, petit à petit, tu grappilles du temps de jeu. Mais je crois que par rapport à ça, on a beaucoup évolué, et les jeunes ont plus confiance en eux, sont plus sereins, et ils ont moins besoin de ça. Mais quand je pense à Bilal Koulibaly, par exemple, qui a explosé aux yeux de tout le monde.
Qui joue à Washington.
Qui joue à Washington maintenant, mais quand il a commencé, il était espoir. Il a eu des minutes par Vincent Collet. Pourquoi? Parce que quand il était sur le terrain, il faisait pas d'erreur. Il défendait bien. Et il donnait ce qu'on lui donnait. Donc franchement, je pense que ça a un peu évolué par la confiance. Mais je crois que les anciens sont très importants pour ça.
Marc?
Dans tous les sports, il y a cet aspect de l'arrivée chez les grands. Moi, j'ai connu la fin d'une époque où, dans le cyclisme, par exemple, au restaurant, dans les stages d'entraînement, il y avait une table réservée pour ceux qui avaient fait le tour. Il y avait les coureurs de l'équipe du tour qui étaient à une table et les autres aux autres tables. Il y avait aussi dans les chambres, quand vous êtes en équipe, il y a deux lits par chambre. Mais souvent, il y a un grand lit et un petit lit. Et le grand lit était toujours réservé aux plus capés, aux plus expérimentés.
Tout ça
pour vous donner un petit peu l'ambiance qui régnait dans ces époques. Mais il y a un endroit, et un seul, où on remet les pendules à l'heure et où on s'exprime et où on fait sa place. C'est d'abord dans les stages d'entraînement. Dans les stages d'entraînement, on fait souvent des longues sorties d'endurance et on roule en général deux par deux. Et on se relaye tous les 5 kilomètres ou toutes les 10-15 minutes, on tourne les deux par deux. Il y a un truc qui marchait et qui marche toujours très bien, qui est immuable dans le temps, quels que soient les moyens de contrôle et de maîtrise de l'entraînement, il y a un truc qui marche toujours. C'est le quart de roue d'avance. Tous les cyclistes qui nous écoutent en ce moment savent de quoi je parle. Le quart de roue d'avance, c'est le petit avantage de votre roue que vous mettez sur votre coéquipier qui est à côté de vous pour avancer. Et il y a toujours un moment où il y en a un des deux que ça énerve, il y en a un des deux qui a plus mal aux jambes que l'autre, et c'est là où on commence à faire la différence par rapport à ses coéquipiers et où on commence à s'imposer. En un mot, moi je dis toujours aux jeunes quand ils arrivent dans l'équipe, faites mal aux anciens. Quand vous êtes à l'entraînement, n'ayez pas peur d'avoir le quart de roue d'avance et n'ayez pas peur de leur faire mal aux jambes. N'ayez pas peur. Que ce soit à l'entraînement d'abord et en course ensuite, n'hésitez pas. Si vous voulez gagner le respect des anciens, c'est en leur faisant mal. Si vous ne faites pas mal, vous n'êtes pas respecté.
Comment s'imposer chez les grands, c'est le chevalier du vestiaire. C'est ça que tu faisais, David ? Tu essayais de faire mal aux plus grands quand tu arrivais ?
Aux grands, aux petits, à tout le monde.
C'est quoi ton histoire ?
Ben non, quitte à vous décevoir, non, malheureusement, parce que y a une différence entre les sports d'équipe et les sports individuels. C'est-à-dire qu'il y a une bienveillance quand tu arrives dans une équipe, ce qui n'est pas le cas lorsque tu arrives sur un tapis d'entraînement où à l'âge de 16 ans, tu arrives à l'INSEP, il y a les équipes de France qui sont là, juniors, seniors, et il y a un écart d'âge et un écart physique tel que, moi, la première année où j'arrive sur ce tatami, où il y a les meilleurs Français, j'en ai pris. Toi, tu arrives de ton sport-études, où tu es un peu le taulier, tu es un peu le cador, etc., tu es champion de France cadet, machin, etc. Et là, tu arrives, et du jour au lendemain, pendant plus d'un an, tu ne fais plus tomber personne. Personne. Et là, tous les jours, tu en prends plein la tête. Et je dois dire que chaque jour, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là ? C'est pas possible, c'est insurmontable, c'est tellement dur, tu te blesses. Ils s'en fichent complètement, voire même quelques-uns, un peu plus vicieux que les autres, chez les anciens, te poussent vers la blessure, voire même sont ouais, assez méchants vis-à-vis de toi. Ouais. Et j'en arrête là parce que ça sert. Mais malgré tout, ça a été la plus belle des écoles et je les remercie tous pour ça parce que dans cette dureté, dans cette meute de loups où il y a le mal alpha qui est le membre de l'équipe de France qui est le numéro 1 et tous ceux qui le suivent derrière 2 3 4 5 6 et tous les jours tout le monde se jauge, tout le monde se s'étalonne, etc., et chaque jour le statut du numéro 1 à l'entraînement, je parle, hein, est quasiment un peu remis en question, enfin est totalement remis en question. Toi, t'arrives là, t'es un bébé, tu te fais broyer dans la machine, mais quelle école, parce que sans aucune bienveillance, tu craques ou tu passes, quoi. C'est le plus beau des sas pour justement partir la deuxième année et la troisième année sur la meilleure route pour toi un jour être le numéro un.
Ouais, mais parce qu'il y a justement ce ça passe ou ça casse, C'est difficile à entendre quand même parce que c'est.
Mais c'est la vérité.
Mais oui, non, mais bien sûr. Mais tu me dis que c'est la meilleure école.
Mais surtout aujourd'hui, on dénonce beaucoup les bizutages. Voilà, et tout.
Non, il faut quand même expliquer que justement, ça te forge une mentalité, que dans le sport de haut niveau, t'as besoin de cette mentalité. Mais c'est vrai que ça peut être inentendable pour quelqu'un qui veut pratiquer du sport ou que ses enfants pratiquent du sport. Qu'en gros, il faut te casser. Vous me passerez l'expression. Il faut te casser la gueule pour qu'après tu puisses être reconstruit et faire autrement.
T'es pas reconstruit. T'es pas détruit, hein, attention, hein. Je dis pas que c'est extrêmement dur. T'es à la limite. T'es sur le fil du rasoir, mais t'es pas détruit. Et la deuxième année, tu dis waouh, j'ai tenu. C'est à moi de mordre maintenant. Non, et qui va
De toute façon, t'as pas le choix. Les places sont limitées.
C'est mordre ou être mordu.
Les places sont limitées. Moi, j'ai connu.
Mais c'est le niveau.
Des sorties d'entraînement, notamment au début de saison avec Bernard Hinault. Bernard Hinault est un monstre de coureur. Mais à l'entraînement l'hiver, c'était pas le plus pressé, on va dire. Mmh. Et je me souviens de stage au mois de janvier où sur la Côte d'Azur, le blaireau, il était dans le dur. Et on finissait l'entraînement, il disait ouais, vous verrez, on en reparlera au mois de juillet, il y aura plus personne pour faire le boulot. Mais on sentait bien que ça lui faisait mal aux jambes. Et je me souviens d'une réflexion un jour de Laurent Fignon vis-à-vis de Bernard Hinault. Laurent lui dit Bernard, t'as qu'à aller t'entraîner. Et là, temps d'arrêt, je peux vous dire que les sorties d'entraînement après, ça rigolait plus. Voilà. Mais il y avait une stimulation et la place et le respect, encore une fois, le respect
c'est ça,
de ses coéquipiers.
Et que tu imposes.
On le gagne en montrant qui on est et en faisant mal.
Exactement.
Le mot mal, c'est la douleur physique à l'entraînement. Et c'est là qu'on gagne.
C'est la bascule.
Si on n'a pas ça, si on ne fait pas ça, on n'est pas respecté. On peut faire tous les beaux discours, les coups de violon, intégration des jeunes, les machins. C'est du pipeau.
Non, mais en fait, ils sont très sympas tant que t'es pas le meilleur.
Mais hein. Voilà.
En fait, tant que t'es pas le meilleur, ils sont très sympas. C'est la bascule qu'il faut réussir
à opérer. Ils t'aiment bien, mais ils te respectent pas.
Mais c'est exactement ça. C'est qu'au début, ils sont tous très gentils. Mais à partir du moment où tu deviens le meilleur, ça les embête un petit peu. Et d'un seul coup, c'est là qu'il faut être encore plus dur mentalement. Parce que là, tu sais que tu vas prendre des coups. Je parle pour les sports courts, encore une fois. Là, tu sais qu'ils te veulent pas forcément du bien. Et que, il y a des copinages aussi dans les équipes de basket. Et que comme par hasard, tu vas faire les passes à l'opposé de toi. Et tu vas pas recevoir le ballon. Comme par hasard. Comme par hasard, il va y avoir une défense. Personne viendra t'aider. Mais par contre, quand toi t'aides pas, on fait bien des gestes pour que le coach voit que toi t'as pas aidé. Et c'est là que, effectivement, c'est la bascule. C'est là que tu mûris plus vite. Parce que tu sais que si c'est toi contre le reste du monde, en fait, même dans une équipe collective, tant que t'es pas le meilleur, tout se passe toujours bien. Dès que tu commences à être un danger potentiel, attention.
Comment s'imposer parmi les grands? C'est notre sujet du vestiaire aujourd'hui dans les grandes gueules du sport. Simon, qu'est-ce que ça t'inspire?
Moi, de mon point de vue d'observateur extérieur, et en schématisant un petit peu, j'ai l'impression que le logiciel s'est inversé. Je pense qu'il y a 20, 30, 40 ans, les jeunes étaient un petit peu impressionnés par les anciens ou avaient un petit peu peur des anciens et que désormais, ce sont les anciens qui voient les jeunes arriver et qui les regardent un petit peu du coin de l'œil avec beaucoup moins d'assurance. Je pense, on en parle souvent ici, que les jeunes sont mieux préparés qu'avant, sont plus programmés pour accéder à ce niveau-là et que du coup, ils regardent un petit peu moins les légendes, les champions en contre-plongée. Ils n'ont plus la sensation finalement de pas être à leur place. Il y a une impatience, je pense, que qui s'exprime en tout cas d'une façon plus décomplexée
qu'à une époque. Les jeunes sont plus défi reste.
Oui,
le défi est là.
Les jeunes sont plus pressés qu'avant, et je pense que en valeur absolue, l'écart bien souvent de niveau de performance, il est peut-être un peu moins grand qu'à une certaine époque.
Mais Simon,
j'ai l'impression que pour le jeune, l'ancien c'est au mieux un modèle, au pire un obstacle falloir.
C'est plus souvent un obstacle et ça a beaucoup changé.
Après, ça dépend du sport.
C'est un élément de comparaison.
J'ai l'intuition que les jeunes sont peut-être un petit peu moins en recherche de s'abreuver de conseils ou d'expérience des anciens parce qu'encore une fois ils arrivent avec un petit peu plus de certitude en disant bon écoutez vous êtes mignon, oui merci pour tout mais on va s'en occuper.
Et pour eux c'est un passage obligé juste c'est tout.
Ça dépend.
Ils doivent juste passer devant toi c'est tout. C'est leur objectif c'est passer devant toi ils s'en foutent de toi en fait.
Ça dépend des sports dit David.
Ouais. Non, ça dépend des sports, parce qu'il y a des sports avec des maturités plus tardives, et c'est comme ça. Puis ça dépend le moment où tu rentres, parce que je vous assure, hein, les écarts physiques de quelques années, d'un an, deux ans, trois ans, quand tu as 16 ans et quand tu as 19 ans ou 20 ans, c'est plus du tout la même. Et quand tu es confronté très très jeune à des seniors qui ont 20, 25, 30 ans pour certains, les écarts sont abyssaux, tu vois, c'est voilà, donc faut ça dépend des disciplines, ça dépend des maturités physiques, et voilà, c'est chaque sport a sa typicité, sa particularité. Et je reconnais que dans certaines disciplines, peu importe l'âge, t'arrives à mordre les mollets beaucoup plus tôt, beaucoup plus, de manière beaucoup plus vive, peut-être plus qu'avant qu'avant.
Moi, je vais rebondir sur ce que disait Simon. Oui, et je pense que les vieux aussi sont beaucoup plus sympathiques. Moi, quand je suis arrivé à Limoges, certains vieux, j'ai expliqué, hein, étaient là pour m'accompagner, mais d'autres non. Ouais. Au contraire, certains me faisaient porter les sacs. D'autres, j'ai juste une anecdote, je citerai pas le joueur, mais j'étais dans la chambre avec un joueur, on revient de l'entraînement. Le mec me dit, va te doucher en premier. Je vais me doucher en premier. Et donc, il va juste après moi, il rentre dans la salle de bain, il me dit, mais c'est tout mouillé par terre. Ben, je dis, enfin, dans la baignoire. Ben, je dis, oui, j'ai pris une douche. Mais non, moi, je veux prendre une douche, comme si c'était la première fois que quelqu'un prenait une douche. Donc, il m'a fait essuyer la baignoire devant lui, j'étais à genoux, à nettoyer. Les vieux de maintenant ne le font plus non plus. Donc il y a eu cette évolution. Alors oui, les jeunes ont plus de confiance, etc. Mais les vieux ont subi des choses et sont plus tolérants et plus gentils aussi.
Plus gentils que
beaucoup plus gentils. Rien à voir.
Mais il n'empêche, c'était quand même un moyen de faire le passage et de gagner sa place. Et la place, on te la donne pas. On te la donne pas. Faut la prendre.
Il y a une expression que tu as utilisée tout à l'heure, Fred, qui je pense est importante dans ce sujet, c'est le syndrome de l'imposteur. En arrivant dans une équipe qui parfois est installée parce qu'il y a des champions, c'est ça le plus grand défi finalement. Vous l'avez, toi tu l'as senti, Fred?
Honnêtement, moi je l'ai senti parce que moi je sortais de l'INSEP, et à l'INSEP à l'époque on nous demandait pas forcément de gagner, donc j'étais un mec qui venait de nulle part, qui n'était pas professionnel, qui arrivait dans le plus grand club de France. Et donc forcément, quand tu vois tous ces joueurs incroyables autour de toi, il faut que déjà tu dises un jour j'aurai leur niveau. Déjà, il faut se dire ça. C'est pas du style j'ai leur niveau, c'est un jour j'espère avoir leur niveau.
Parce que là, par exemple, Mbaye, Mayulu qui prennent la place de Dembélé, Kvaratskhelia dans le 11 de départ, qui sont blessés.
Et c'est là que je trouve ça très bien que les jeunes ont cette confiance en eux. Moi, un mec comme Tony Parker, quand il arrive en équipe de France, il pensait que c'était le meilleur déjà. Et avec notre
mental. T'as vu arriver Tony Parker?
Moi, j'ai vu arriver Tony Parker, et quand il est arrivé, et nous, tout le monde disait, mais c'est qui ce petit prétentieux là? Sauf que. Ben non, c'est lui qui a raison en fait. C'est lui qui en se formatant, en disant je suis meilleur, va réussir avec le meilleur. C'est pas être se la raconter que de dire ça. C'est au contraire avoir cet objectif d'être le meilleur. Et Tony Parker, pour moi, est l'exemple parfait. Il est arrivé, il n'était rien pour nous, mais pour lui, c'était déjà le meilleur.
Mais tu l'as respecté du coup?
Forcément, tu le respectes encore plus vite parce que non seulement il dit que c'est le meilleur, mais en plus sur le terrain, il le montre. Ben tu fermes ta bouche, tu dis félicitations.
Marc,
non, mais c'est la preuve par le résultat.
Bien sûr,
c'est la preuve par un résultat. Je veux dire, il y a rien en fait dans le sport et dans le haut niveau qui viendra déloger ce que tu montres sur le terrain. Voilà, point. C'est tout. Tu peux avoir tous les discours, toutes les attitudes du monde, si t'es pas capable de prouver que t'es capable de faire ceci, cela, tu n'as le respect de personne. Dès que tu le prouves, c'est fini. La messe est dite.
Mais t'as pas vu des jeunes arrivés, David, aussi derrière toi, qui peut-être disaient, tiens, je vais le déloger à Douillet, que t'as dû gérer?
Oui, bien sûr, des grandes bouches. Des bouches, il y en a toujours dans chaque génération. Mais ceux-là, c'est des étoiles filantes. Au bout de 3, 4, 5 entraînements, un championnat, un machin, un truc, c'est fini, ça disparaît, ça se dégonfle. C'est des soufflets, ça.
Non, mais les bouches qui n'assument pas, on les respecte pas. C'est les bouches qui assument qu'on respecte, en fait. Si après, t'arrives à nous montrer que t'es meilleur que nous.
Par le résultat.
Par le résultat.
T'es attentif à ça, Marc, en étant manager d'équipe, aux garçons, peut-être qui, dans la parole, disent beaucoup avant d'avoir fait, ou.
Non, mais je regarde. J'observe, mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que c'est sur le terrain que ça se fait, c'est sur la route.
Ça, tu leur dis?
Mais je leur dis, mais quand les jeunes arrivent dans l'équipe au premier rassemblement, je leur dis, n'hésitez pas, faites-leur mal.
Ça, tu dis ça devant les grands?
Bien sûr. Et j'aurais dit à eux avant, quand ils étaient arrivés, avant les plus anciens. Donc c'est très clair. Et il faut que ce soit ainsi. C'est une jungle. Il faut faire sa place dans la jungle. Si tu fais pas ta place, t'es condamné. t'es condamné. Il faut faire mal. Moi, je suis arrivé, mes premières sorties d'entraînement chez Renault, à la grande époque Renault avec Bernard Hinault et il y avait des anciens. Et je me souviens d'une réflexion que m'avait faite quelques années après Bernard Kilfen, qui était en fin de carrière coureur et que j'ai eu ensuite comme directeur sportif chez Renault. Il m'a dit, mais qu'est-ce que t'as pu m'emmerder à l'entraînement? Forcément, moi, je sortais des juniors, j'arrivais dans l'équipe, je voulais montrer que je savais pédaler. Et Kiki, c'était son surnom, Kiki me disait, mais qu'est-ce que tu m'as gonflé? T'avais un bonnet à l'époque et il me dit, j'avais le bonnet qui balançait à droite, à gauche devant mon nez toute la journée à l'entraînement, j'en avais ras la casquette. Mais quelque part, à ce moment-là, j'avais gagné son respect.
T'as eu peur, toi, quand t'es arrivé dans cette équipe où il y avait ces monstres,
non.
Apparemment,
t'as directement pensé que tu voulais t'imposer. Non, je me suis pas mis dans ce tempo-là.
Après, c'est une question de personnalité aussi.
Je me suis mis dans le tempo, je veux faire ma place, je veux être dans la plus grande équipe, j'y suis, donc je vais montrer que je suis capable de...
Ouais, ouais. Effectivement, c'est une question de personnalité, parce que tout le monde n'a pas cette capacité...
Ah ben, si t'as pas la personnalité, disparaît.
C'est pas vrai, parce que je l'avais pas. Je l'avais pas et j'ai joué pendant de nombreuses années après, mais en arrivant.
Non, mais tu l'avais pas, mais tu l'as eu, Fred.
Mais grâce à cette attitude et à tout, et j'ai fait ma place. Mais au départ, j'avais pas cette attitude du tout. Et je rejoins David pour finir le débat. Je remercie ces vieux-là qui ont été durs avec moi parce que grâce à eux, j'ai fait une carrière après.
Il y a plusieurs façons de s'imposer dans la cage au lion et c'est hyper intéressant d'avoir votre partage d'expérience là-dessus. Comment s'imposer chez les grands? Vous avez quelques pistes si vous commencez dans le sport aujourd'hui pour essayer de vous imposer. Dans quelques instants, les GG sur le buzzer. Tiens, on va parler d'un événement. Vous savez que des youtubeurs sont peut-être en train de devenir les meilleurs ambassadeurs du sport. Peut-être. En tout cas, de bons ambassadeurs. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Georges Quilineau.
Avec Marc Maggio, David Douillet, Fred Weiss, Simon Dutin. On a compris que pour s'imposer chez les grands, c'est la loi de la jungle, il y a quelques instants. Et on a appris également d'autres choses. On en parlera dans peut-être un autre vestiaire. Mais Marc Maggio nous dit que la façon de dormir peut-être peut influencer des carrières. On en reparlera, c'est un teasing là, mais ça vaudra le détour, je vous préviens. Dans un instant, les jeux du sport, quel GG connaît le mieux le sport? On va voir une confrontation à venir, mais d'abord, on a la gagnante des deux places pour France-Azerbaïdjan avec nous, c'est Sabrina. Bonjour Sabrina.
Bonjour.
Et félicitations Sabrina.
Merci.
Tu remportes deux places pour aller voir ce match vendredi prochain. Tu sais déjà avec qui tu vas aller voir ce match des Bleus?
Bah oui, mon mari. Hein.
Ah bah vous allez bien profiter.
On sent la déception un petit peu. Ça. Ah bah,
non, pas non, il ne sait pas, ça va être la surprise. Non, je suis contente.
Ah bah magnifique, c'est une belle surprise. On est heureux de d'aiguiller votre dimanche matin. Félicitations, Sabrina,
on est
ravis. RMC vous offrez ces places pour France-Azerbaïdjan.
Gagnez vos places pour France-Azerbaïdjan sur RMC avec EDF. Partenaire majeur de la Fédération Française de Football.
Et avant de jouer dans quelques instants, d'abord un dernier débat. Le sport de demain a-t-il besoin des rois de la toile?
Le Chopin Explorer, c'est parti!
C'est parti!
Tout droit pour De Pielo!
Et oui, le pilote racer
De Pielo qui va finir cette course en étant le deuxième gagnant du GP Explorer!
Merci Squeezie!
RMC, les GG sur le buzzer.
Alors là, si vous avez plus de 30 ans ou 40 ans, vous êtes peut-être un petit peu perdu, mais c'est un des événements de ce dimanche, un phénomène à 18h sur le circuit Bugatti du Mans. C'est la troisième édition du GP Explorer. C'est une course de Formule 4 pilotée par des créateurs de contenu, des stars de YouTube et de Twitch. L'épreuve a été imaginée par Squeezie, près de 20 millions d'abonnés sur les réseaux, peut-être le plus populaire d'entre eux. Pourquoi on en parle? Parce que l'événement remplit les tribunes, attire des sponsors premium. Normal quand on rassemble près d'un million et demi de téléspectateurs sur le réseau la dernière fois. Le GP sera cette fois-ci diffusé pour la première fois. C'est pour ça qu'on en parle donc sur le service public à 18h. La question que je vous pose, les GG, le Grand Prix Explorer, donc les créateurs de contenu sont-ils de bons ambassadeurs du sport? C'est une question générationnelle parfois. D'abord, j'ai envie d'entendre Marc Maggio. Oui ou non?
Je vais être humble.
Pas d'avis.
Je vais vous dire, je suis largué.
Eh ben oui, mais c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ces débats-là aussi. Simon Dutin.
Ah, je vais adopter la position Denis Charvet. Moi, je suis partagé.
Partagé. Voilà. David Jouillet.
Moi, je dis oui.
Oui, ce sont de bons ambassadeurs. Fred Weiss.
Moi, oui, aussi.
Alors qu'il y a quelques temps...
Il y a quelques temps, je t'ai complètement opposé, ouais.
T'aurais peut-être dit non. 32-16 et WhatsApp 06-12 424-424. Pour bien comprendre pourquoi on se pose la question de savoir si les créateurs de contenu sont de bons ambassadeurs du sport, Morgan Maury et Arnaud Valadon ont travaillé sur le sujet. Salut Arnaud.
Salut les GG.
Salut Arnaud.
Parce qu'il faut bien comprendre. Donc, on n'est pas là pour dire ce que font les créateurs de contenu. D'ailleurs, c'est du sport. Hein, ils veulent rivaliser avec les grandes compétitions. C'est pas ça le sujet. Mais pour certaines fédérations, l'apport des créateurs de contenu pour la promotion de leur sport est indéniable, Arnaud.
Et les exemples ne manquent pas, le GP Explorer étant le plus gros, mais on a vu la Kings League avec le foot, et Amine est aussi arrivé la boxe avec le DTR Fight, et on a même vu la pétanque. La Fédération Française de Pétanque et de Jeux Provençal s'est appuyée sur les youtubeurs aux 9 millions d'abonnés, McFly et Carlito, pour organiser la Pétanque Explorer il y a un an. 8 heures de compétition avec des créateurs de contenu et un public inédit touché, souligne Clément Ménéguin, il est chargé de communication à la Fédération de pétanque.
Ça sautait aux yeux, hein, les rires, les familles, même s'il y en a qui viennent aussi dans nos compétitions officielles, mais eux, ils ont touché un public beaucoup plus large, beaucoup plus diversifié, en fait. Et donc, on ne peut que le reconnaître et d'ailleurs le saluer, il n'y a aucun problème pour ça. On peut dire qu'ils ont parfaitement traité notre discipline comme nous, on l'espérait, avec leur œil nouveau, et c'était parfaitement convenable. C'était même plus que convenable. Ils ont fait plus de 3 millions de vues, hein, donc au total, replay compris.
Et il y a eu un peu plus de licenciés aussi à cette fédération. Alors le GP Explorer, on en parle aujourd'hui, le précédent tu l'as dit, 1,3 million de téléspectateurs connectés au même moment, ça inclut pas le replay. La recette est simple, des figures très populaires sur les réseaux, un concept fun là autour du sport et un produit mis en valeur par une production audiovisuelle digne de ce nom. Il faut que cela soit beau, cela soit propre. La puissance des différentes communautés fait ensuite la différence. Pour ce week-end sur 3 jours, le circuit Bugatti du Mans avec plus de 200 000 spectateurs annoncés, 80€ la place pour une seule journée et tout a été vendu en 2 heures. Pierre Gosselin est le président de la Fédération Française du Sport Automobile.
Au Mans, remplir les tribunes comme ça, peu d'épreuves le font. On l'a pour les 24 heures du Mans, on a pour le Grand Prix Moto, mais eux, ils ont cette capacité incroyable. Depuis le matin jusqu'au soir, les tribunes sont pleines. Donc il y a un vrai public, ils ont en fait un vrai public. Et pour nous et pour moi, ce qui est important, c'est que ce public s'intéresse aussi au sport auto. Ils sont pas réfractaires, ils ont pas dit parce que c'est du sport auto, on n'y va pas. Et c'est le reflet de ce que nous, on voit tous les week-ends sur toutes nos épreuves, c'est un côté très populaire.
Vous avez des courses et du show puisqu'il y a des artistes programmés toute la journée, des artistes très populaires, Vald, SDM, SCH, Gazo, j'ai peut-être encore perdu Marc là-dessus. Et les marques sont friandes et elles suivent, elles sponsorisent les écuries. Je vais vous donner ces marques. On retrouve Netflix, Lego, Andro, Subway, Samsung, Alpine, Cupra. La précédente édition a généré 21 millions de vues sur les réseaux sociaux et cette année, 10 millions de budget. Les recettes sont prévues aux alentours de 13 millions d'euros et tu l'as dit, la course reine de dimanche sera diffusée sur France 2, en plein après-midi.
Reste avec nous, Arnaud, mais tout ce que nous dit est assez impressionnant. 3 millions de vues pour regarder de la pétanque, des sponsors premium, alors qu'on parle par exemple dans le vélo de la difficulté à trouver des sponsors.
Ça,
là.
Ça a été fait dans le vélo. Ça me revient en mémoire avec David Godu et avec un youtubeur sur l'Alpe d'Huez.
Ah oui ?
Il y a 3-4 ans de ça.
Et comment tu observes ça, toi, du coup, Marc ? C'est intéressant. Parce que là, pour le coup, c'est vrai que c'est quelque chose de générationnel. Tu disais, je suis un peu dépassé il y a quelques instants.
Oui, non, mais objectivement, je suis dépassé. Mais après, quand j'entends les chiffres et les retours sur investissement, entre guillemets, de ce genre de truc, on est obligé de regarder et d'être attentif. Maintenant, est-ce que c'est durable dans le temps ? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est ponctuel ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut se tourner vers ça ? Possible. Je sais pas, je regarde, j'observe et je suis assez circonspect par rapport aux chiffres qui sont annoncés.
C'était Domingo, hein, le youtubeur, un youtubeur très connu. David, toi, tu nous disais que t'es convaincu par ça. Tu trouves que sont de bons ambassadeurs.
Ouais, parce que moi, je pense que ça concourt à la construction de la culture sportive, voilà, au global, hein. Et on doit pas se couper de n'importe quel moyen, n'importe quel prisme, n'importe quelle communauté pour mettre un éclairage sur le monde du sport.
Ah, David, tu as le bon causement.
Comment ?
David, tu as le bon causement.
Il est politicien, ouais, quand même.
Non, mais... Là, on voit que t'as des petits restes.
Mais David, il est connecté, oh.
Non, mais enfin, j'ai
je plaisante.
Mais je suis content d'avoir des restes pour la bonne cause, parce que c'est notre cause. On sait pertinemment que la pratique du sport et le sport du haut niveau en fait partie, parce que évidemment ça stimule le sport de masse, etc. Et que tout ce qui peut être capté par le fait de pratiquer une discipline sportive, c'est une école. Voilà. Et Dieu sait si on a besoin pour nos gamines et nos gamins d'aujourd'hui, de demain, d'avoir ce prisme de construction individuelle. Donc moi je vais pas me couper, et je trouve ça génial que des gens se connus à travers différents aspects, là on parle des gens qui sont des stars du réseau, et ben puissent amener des populations entières à regarder et à mettre cet éclairage sur le monde du sport, parce que on met de l'éclairage sur eux à un moment donné parce qu'ils participent, oui, voilà, ils organisent des compétitions qui leur sont propres, ce qui fait que après les gens sont captés, les gens sont verrouillés et vont être amené à regarder le
sport,
c'est pas le sport et le vrai haut niveau, tu vois, et la connexion se fait, et je vois pas pourquoi on se couperait de ça, bien au contraire, et au contraire tout est bon pour concourir à cet élan de construire le sport et d'avoir une vraie culture du sport dans notre société.
Fred, toi il y a quelques temps t'aurais dit c'est pas forcément de bons ambassadeurs.
Non, parce que effectivement j'étais plus parti sur le fait qu'ils se mettent en avant plus qu'ils mettent le sport en avant. Mais j'ai l'impression que dans ce milieu, il y a 95% de blaireaux et 5% de génies. Et ces 5% de génies créateurs de contenu sont vraiment des génies, ils sont au-dessus du lot, et ils peuvent aider le sport, et ils peuvent aider soient les choses qu'ils montrent. Il faut se rendre compte que Squeezie, alors oui, on parle de son Grand Prix là, mais il a la volonté de créer une sorte de d'émulation par rapport au fait de conduire, et aider des gens qui font de la simulation pour l'instant, à peut-être un jour avoir un baquet.
C'est pour ça que le président de la FFSA disait ça.
Donc c'est hyper, hyper intéressant pour le sport, c'est hyper intéressant pour ouvrir les portes de ce sport. McFly et Carito qui mettent en avant la pétanque, je trouve que c'est un extrêmement bénéfique, parce que c'est un point, on parle vraiment de pétanque, ils se mettent en avant bien sûr, mais c'est leur rôle, et c'est pour ça qu'on les aime sur les réseaux.
Et sur YouTube aussi, il y a Mister V, le YouTuber,
c'était mon basket. Point suivant. Honnêtement, quand tu vois jouer les mecs, tu vois que tu te dis, ma grand-mère est meilleure qu'eux, mais c'est pas l'important. C'est que c'est bien filmé, c'est bien produit, bien c'est sûr. Intéressant et qu'il y a un vrai potentiel.
Toi, en fait, tu irais participer à ce genre de
bien
d'émission,
sûr. Fred. Moi, il m'appelle, j'y vais demain.
Pour mettre en valeur le basket.
En plus. Gratuitement.
Regarde ce que tu dis.
Et Georges et Fred.
J'ai aucun intérêt par rapport à ça, mais c'est tellement bien produit et l'envie y est. Et si tu vois Mister V à un match du Paris Basketball, tu sens qu'il vit le basket.
Ben maintenant, il est dans le.
Regarde l'exemple concret de McFly et Carlito sur la pétanque. Un ado de 15-16 ans. Il voit son père et son grand-père jouer aux boules. Ah, c'est ringard, c'est machin. Il a vu le Pétanque Explorer et s'est dit, oh, c'est marrant en fait. Eh ben, je vais jouer.
C'est un sport de jeu.
T'as vu comment ça peut parler? Et du coup, tu crées du lien aussi intergénérationnel, parce que t'as quand même cette image de la pétanque. Voilà, c'est pas le sport qui plaît le plus aux jeunes à la base. Et eux arrivent, à toucher du public et à intéresser. Et t'as des hausses de licenciés derrière.
Simon, partagé.
Oui, partagé. Arnaud marque un point en effet, parce que quelles que soient les disciplines, on le voit même dans le foot, qui est le sport le plus apprécié au niveau mondial. Il y a un désintérêt, de toute façon, des jeunes générations, de la génération Z, pour juste la façon dont c'est produit à l'heure actuelle. Donc, réinventer les codes de diffusion, de production, du spectacle sportif, évidemment.
Il y a la Kings League en foot.
Voilà. Donc, il y a cette nouveauté. Il y a en effet une visibilité accrue qui est dû à cette accessibilité, puisque il y a pas généralement, c'est un spectacle gratuit
sur exactement, c'est important, voilà, de dire.
En libre accès. Donc à ce titre-là, oui, il y a cette espèce de spectre qui s'élargit par rapport au public que tu vas chercher. Moi, j'ai un problème avec simplement les influenceurs, les influenceuses. C'est que on se demande s'ils sont des bons ambassadeurs pour le sport. Les influenceurs, les influenceuses.
Attention, mettons pas tout dans la même sac. Hein. Les créateurs de contenu et les influenceurs. Confondons pas, par exemple, quelqu'un comme Squeezie qui fait du contenu et l'influenceur et qui va faire une publicité pour une marque de cosmétiques.
Oui, alors d'accord, mais bon, ils partent tous du même. Les influenceurs, les influenceuses sont des gens qui sont d'abord des ambassadeurs excellents pour eux-mêmes. voilà, pour leur compte en banque et pour leur notoriété. Donc,
cette notoriété aide aussi.
Donc, c'est juste que le narratif très, très efficace qui consiste à dire que c'est bon pour le sport, c'est bon ce qui va se passer sur le Bugatti aujourd'hui, c'est bon pour le sport automobile, c'est bon pour ce que tu veux. Moi, j'attends de voir. J'étais également surpris par les altitudes qu'atteignent les chiffres que Arnaud nous a donné. Bon, je suis un petit peu dubitatif sur la transparence du ruissellement de de l'argent que ça peut générer. J'attends de voir. Je suis pas persuadé que on ait besoin de tous les gens qui s'emparent du sport pour l'associer à leur compte des réseaux sociaux. Ouais.
Le ruissellement, c'est de la promotion tout simplement de sports qui sont pas suffisamment mis en avant. Et d'ailleurs, juste, je conclurai par ça. Important aussi de penser que les créateurs de contenu, qu'on ait millions de suiveurs sur YouTube, dans certains pays deviennent aussi des diffuseurs d'événements. Hein. C'est le cas au Brésil où les plus grands créateurs de contenu diffusent la Ligue 1, par exemple. Aux États-Unis aussi, certains font la promotion de la NFL.
La Saudi League en France cette année.
Voilà, la Saudi League en France qui est diffusée par Zach Nani, mais ça reste encore un championnat à la marge. Mais qu'est-ce que ça nous dit des diffuseurs de demain? Donc c'est pour ça que c'était important de mettre le débat aujourd'hui sur la table des grandes gueules du sport, parce que il va pas falloir qu'on soit largués là-dessus, les amis, et qu'on se mette à la page tous ensemble. Allez, dans quelques instants, les jeux du sport pour terminer. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Les grandes gueules du sport, la dernière ligne droite, tout de suite, on joue.
RMC, les jeux du sport.
Je vous rappelle le principe, c'est du 2 contre 2, vous allez défendre un auditeur. Répartition des équipes est effectuée avec Kylian Verov, notre producteur. Équipe Fred Weiss, Marc Madio.
J'ai un mec cultivé avec moi, ça m'a
laissé. Une équipe David Douillet, Simon Dutin. Les auditeurs, on les accueille, Florian et Kaïma. Bonjour les amis.
Bonjour.
Florian, c'est toi qui as appelé en premier, je te laisse choisir ton équipe. Madio Weiss ou Douillet Dutin?
Douillet Dutin.
Douillet Dutin, ouais. Pour Florian Kaïma, tu es donc avec Marc Madio et Fred Weiss. Je vous rappelle le cadeau à gagner aujourd'hui, un PC portable de la marque nantaise Altic. Allez les amis, c'est parti. Question de rapidité d'abord les GG. Plusieurs réponses possibles. Ah. La course des championnats d'Europe de cyclisme se dispute aujourd'hui. Qui est le vainqueur sortant?
On l'a dit tout à l'heure.
Tiberlière. C'est incroyable. Quand on a parlé tout à l'heure, je me suis dit, est-ce qu'ils vont le retenir? Alors qu'on avait déjà écrit. 1-0 pour l'équipe Douillet Dutin. Question à une seule réponse. Une seule réponse. Le plus proche l'emporte. Victor Wembanyama a rejoué cette nuit. Il mesure combien désormais?
2m19.
David,
2m21. Ouais, je sais pas.
Le plus proche c'est Simon, c'est 2m24. Voilà, ouais. Heureusement. T'as pas aidé.
2m24.
Il a dit combien? J'ai dit 2m22,50.
Ah, t'as dit 2m22,50, pardon, j'avais pas bien entendu. Ouais, bah voilà, un partout. Bah David, il fallait tenter un truc, oh.
David,
ouais, mais
comme au juste prix. Comme au juste prix, tu donnes un centimètre de plus. Question auditeur, c'est pour vous, Florian et Kaïma. Vous donnez votre réponse et ensuite votre prénom. Comme ça, je sais qui donne la réponse. Ok pour vous?
Oui.
Okay. Contre quelle équipe joue l'AS Monaco aujourd'hui en Ligue 1?
Je peux regarder. Kaïma.
Ouais. Vas-y Kaïma. Qu'est-ce que tu
Monaco et.
Allez vite, il faut une réponse. 5, 4, 3, 2.
Nice.
L'aider Kaïma. Elle a quelqu'un pour l'aider. Wow. Derrière. Demain. Attention, la prochaine fois, je serai.
Tu
serais dur.
Pareil. Ah ouais.
Question à une seule réponse. Après 5 journées de top 14, un club n'a marqué aucun point au classement. Lequel?
Montauban?
Non.
Castres?
Non, un club n'a marqué aucun point au classement. Ils sont derniers avec 0 points. Perpignan, Fred Weiss.
On lui a soufflé.
Ouais.
Non, on t'a soufflé.
Pourquoi?
On t'a soufflé.
Pourquoi en fait je peux pas prendre?
Tu sais pourquoi? Parce qu'on me l'a soufflé aussi.
On t'a soufflé à toi?
Eh ouais, c'est arrivé dans le casque.
Non, d'ailleurs, on n'en souffle pas. On a des choses à faire gagner. Arrêtez de faire ça.
C'est pas vrai.
Question de rapidité. Plusieurs réponses possibles. Isaac Hadjar partira en 8e position du Grand Prix de Singapour à 14h à suivre sur RMC. Quelle est sa position au classement des pilotes?
6.
Non.
7.
6. Ouais. 8.
Non.
9.
Fred Weiss.
C'était pas une question à une seule réponse?
Non, à plusieurs réponses, j'ai dit. Plusieurs réponses. Mais il faut écouter,
ah,
Simon.
J'ai compris seul, moi.
Au lieu de crier à la tricherie.
Mais j'ai triché là aussi. Je pense que j'ai triché aussi. J'ai dit tous les chiffres.
Bien sûr.
Ça fait 4-1 quand même là, hein. Ça commence à être difficile. Question auditeur, Florian et Kaïma, vous donnez la réponse et ensuite votre prénom. Qui est le leader du championnat du monde de Formule 1?
Ferrari, non.
Max. Non, bah, allez, vous n'avez pas la réponse. C'était Oscar Piastri. On reste donc à 4-1. Allez, c'est parti. Question, les GG, question à élimination. Chacun répond à tour de rôle. Une erreur et vous êtes éliminé. Je vous rappelle, c'est le tour de table. Le gagnant apporte 2 points à son équipe. Il y a 4-1 pour l'équipe Madio Weiss. Donnez-moi la liste des 23 joueurs convoqués par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement des Bleus. On commence par Marc Madio.
Mbappé,
c'est bon, évidemment. David Douillet.
Dembélé.
Et non, Dembélé blessé. Senti.
Ah, merde. Ah, mais non.
Oh là là.
Fred Weiss.
Barcola.
Direct.
Barcola, c'est bon. Simon Dutin.
Mateta.
Lucas Chevalier.
Mateta. Attention, parce que là, les auditeurs ne peuvent plus participer. Hein. Marc Madio.
Chevalier,
ça marche. Fred Weiss.
Rabiot,
ça marche. Ouf. Simon Dutin.
Maignan.
Mike Maignan, bien sûr. Marc Madio. Marc Madio. 5, 4, 3, 2, 1. Éliminé, Marc Madio. Fred Weiss.
Moi, j'en ai 15, je crois, et je suis même pas sûr. Tu rames?
Lequel?
Marcus.
Eh ben non, il n'y est pas, Marcus, tu rames. Simon Dutin pour la balle de match. Comment?
Konaté.
Konaté. Ibrahima Konaté, oui. Bien sûr que c'est bon. 2 points, 4-3. Donc, je vous préviens, Simon prend ça beaucoup trop au sérieux. question pour vous, les GG. Tiens, quelle équipe est la dernière de Ligue 1? Une seule réponse. Une seule réponse. Metz. Ça fait 5-3. Allez, dernière question. Qui a gagné le Rugby Championship hier? Question à une seule réponse.
Australie.
L'Afrique du Sud.
Simon Dutin, la victoire. Et pour l'équipe Madio Weiss. Victoire pour l'équipe Madio Weiss. Et c'est donc Kaïma qui remporte le PC portable de la marque française Altitude. Félicitations,
merci,
Kaïma.
Merci beaucoup.
Et merci à vous tous.
Merci.
Jouez au jeu du sport sur RMC et gagnez un PC portable Altic 16 pouces garanti 3 ans. Altic, la marque française d'ordinateurs basée à Nantes. Rendez-vous sur altic.com.
Merci à vous les grandes gueules du sport.
Merci beaucoup.
Merci Marc Madio, merci Fred, merci David Douillet, merci Simon Dutin, qui est en train de s'installer comme le plus grand mauvais joueur des jeux du sport. Hein, je vous le dis.
On va faire un vestiaire sur la tolérance à la défaite. Ah, je suis mauvais perdant, mais bon. Il faut jouer avec les mêmes armes que les autres.
Allez, tout de suite, les paris RMC.
Jusqu'à 13h,
les paris RMC.